Il était 1h du matin, l'heure indécise où la lumière des néons se mêle à celle plus intime des regrets. Camus Rochaud suintait la nuit par tous ses ports, ruelles humides, cabarets aux enseignes criardes, comptoirs de bar où le whisky se mariait au silence. Là, au croisement de Pink Street et de Tankeshi, deux hommes fumaient une cigarette, l'un l'air pensif, l'autre l'air constipé. Mister J, le souffle court et les lunettes embuées par la vapeur d'un ramen trop chaud, réajustait sa sacoche banane d'un geste qui n'appartenait qu'à lui, à un mélange de grâce toute virile et de désinvolture bovine. « Mon cousin, dit-il en tirant une bouffée de sa cigarette Seven Star, les fondations du Love Hotel Ichiban, elles sont en béton armé. C'est pour ça que ça tient, même pendant les tremblements de terre. C'est beau, ça. C'est rationnel. » Tercy Périx, les yeux rouges de colère ou d'émotion impossible de dire, frottait ses mains moites sur son pantalon, comme s'il cherchait à en extraire une pensée pure. « Tu comprends rien, J. Le béton, c'est le symbole de l'oppression capitaliste, et en même temps, c'est ce qui permet la révolution. Tu veux que je t'explique Marx ou que je te montre comment on fait un croche-patte à un capital risqueur avec les tibias ?»« Mon cousin, répondit Mister J en haussant un sourcil graisseux, j'ai réparé des boîtes de vitesse avec un tournevis plat et une ficelle. J'ai pas besoin de dialectique quand j'ai mes mains. » Mais leur discussion, comme tant d'autres avant elle, fut interrompue par l'arrivée tonitruante d'un gang local, les Cœurs de Dragon de l'Est, un groupe de yakuza en kimono rose fluo, spécialisé dans le trafic de champignons hallucinogènes et la poésie tanka. Tiens, tiens. Grogna leur chef, un certain Onizuka-san, dont la moustache était si fine qu'on aurait dit qu'elle avait été peinte à l'encre de Chine. C'est pas les deux philosophes de pacotille qui squattent mon trottoir comme des crottes sur un bidet ? Tercy Périx s'avança, la veste entrouverte, révélant un t-shirt orné d'un sphinx qui pète. Tu veux du bidet ? Je vais t'arroser le cerveau, toi et tes acolytes au prénom de Fleur. Mon cousin, souffla Mister J, je crois qu'on va devoir leur expliquer la statique des masses. La musique jaillit de nulle part, un orchestre de chamisans électriques, de cuivres dramatiques et de percussions déréglées. Dans un ralenti absurde, Mister J bondit, tel un pachyderme éclairé, et fracassa son sac banane en cuir véritable sur le crâne d'un sbire, révélant une clé de 22 dissimulée dans la doublure. Tercy Périx, lui, dégaina une flûte traversière, qu'il utilisait comme matraque, tout en citant Artaud. Il faut détruire la scène. La baston dura 14 minutes et 2 pages entières de description proustienne, que l'on résumera ici, cris, larmes, poings dans les dents, insultes brillamment obscènes, réflexions philosophiques ponctuées de paix. Puis, le calme revint. Le chef des Yakuza gisait, la moustache tremblotante, dans une flaque de saké. Pourquoi ? Pourquoi vous vous battez ? Demanda-t-il d'une voix pleine d'ombre. Parce que l'homme est une architecture en mouvement, dit Mister J en craquant une allumette, et que parfois, faut secouer les fondations. Tercy Périx soupira, soudain mélancolique. Et parce que le monde pue du cul. Ils s'éloignèrent, leurs pas résonnant dans l'aube naissante, silhouette massive et paradoxale, aussi ridicule que sublime, aussi humaine que poétique. À Camus Rochaud, même l'absurde finit toujours par ressembler à la vérité. Chapitre 2, à l'ombre des glycines de Camus Rochaud. Lorsque le soleil finit par lécher les vitres crasseuses du snack bar oublié, que les mégots froids formaient une constellation au sol, que les filles fatiguées rentraient chez elles comme des sirènes au port, nos deux héros, fatigués mais éveillés, se retrouvèrent sur le toit d'un parking de Camus Rochaud. Là, parmi les ventilateurs vrombissants et les néons mourants, ils observaient la ville comme on regarde un animal blessé, avec une tendresse mêlée de crainte. Mister J, cambré sur une barrière de sécurité, admirait la géométrie quasi sacrée d'un échangeur autoroutier qu'on devinait au loin. Il porta à ses lèvres une canette de Boss café au lait tiède et siffla entre ses dents. « Mon cousin, si tu regardes bien, chaque pilier de béton c'est un poème. Pas un IQ de lycéen, hein, un vrai poème, industriel, lourd, avec des boulons qui veulent dire « je suis là ». Tercy Périx, assis en tailleur, fronçait les sourcils, la main sur le ventre. « Putain, je suis encore constipé. C'est le Katsudon d'hier. Où c'est la société ?» Il se leva brusquement, son long manteau en simili-satin volant comme une cape, et déclama avec sa voix fluette mais ferme, qui tenait du fossé d'un castrat déchu et du sermon d'un prêtre énervé. « Ce monde est un étron mal essuyé. Et Camus Rochaud, c'est la crotte coincée entre les fesses de l'histoire. Hola, souffla Mister J en fouillant dans sa sacoche banane, je vais prendre une action softbank, j'ai besoin de stabilité. » Mais l'instant fut interrompu par l'apparition d'un nouveau personnage, un certain Bishop Takamura, prêtre défroqué devenu leader d'une secte crypto-catholico-yakuza qui prêchait l'apocalypse financière par le biais du Forex. Il surgit, accompagné de ses apôtres de la déflagration, des types torse nus avec des cravates, chacun armé d'un encensoir modifié pour cracher du gaz lacrymogène. Mystère J. Tercipérix. Hurla Takamura, les yeux injectés de fièvre mystique. Vos portefeuilles sont des péchés incarnés. Vous tradez dans le vice, vous vivez dans le spread, vous respirez le dividende comme des démons buveurs de capital. Mon cousin, marmonna Mystère J, en reculant d'un pas, il y a des jours où je regrette d'avoir diversifié mes investissements. Tercipérix se redressa, tendit un doigt vers le ciel et répondit, théâtral. Takamura, toi et tes fiottes mystiques, vous êtes le pé coincé dans le froc de l'humanité. T'es l'huile rance de la mayonnaise idéologique. Je te pisse dessus avec des mots et je t'enterre avec des citations de Deleuze que j'ai même pas comprises. Et dans un silence pesant, il sortit de sa poche un minuscule vibromasseur doré, l'alluma, et le lança droit dans la bouche d'un des apôtres, qui s'effondra dans une gerbe d'écume et de versets bibliques mal traduits. La baston fut plus lyrique encore que la première. Mystère J se battait comme on répare un moteur en pleine tempête, utilisant des gestes nets, secs, efficaces. À un moment, il étrangla un homme avec un câble Ethernet tout en expliquant calmement les ratios d'endettement des entreprises du nickel. Tercipérix, lui, virevoltait, insultait, criait, simulait une crise de foi, griffait, puis récitait un sonnet érotique en latin avant d'écraser un encensoir sur la tente d'un fanatique. Quand le silence revint, il était 6h34. Le jour se levait. Takamura gémissait, attaché à une grille d'aération, les mains enduites de moutarde à l'ancienne, Tercipérix avait ses raisons. « Vous êtes des monstres », murmura-t-il. Mystère J, allumant une nouvelle cigarette, haussa les épaules. « Mon cousin, c'est pas nous qui avons inventé la violence. On l'a juste rénovée. » Tercipérix s'essuya les mains sur sa veste, puis regarda la ville. « Faut que je chie. Et après j'irai lire Foucault. » Ils descendirent les marches en silence. Le soleil filtrait entre les immeubles, et Camurocho, encore une fois, acceptait leur présence sans les comprendre. Et comme le disait souvent Mystère J, en consultant ses stocks. « L'important, mon cousin, c'est la liquidité. » Chapitre 3 ou le paradoxe du bail 77. Ou, de ce qu'il advint quand Mystère J, Tercipérix, et un terrain vague s'attirèrent des ennemis sans nombre. Le soleil était déjà haut sur Camurocho, et la ville s'était engoncée dans sa torpeur habituelle, klaxon fébrile, haleine de nouilles tièdes, et sous les vitres fumées des bureaux, l'éternel balai des deals obscurs plus de dettes que de café. Là, dans le fumoir du parking Tower et Bizu, entre deux camions de livraison frigorifique, Mystère J regardait la bourse sur son smartphone en marmonnant. Mon cousin, ça sent pas bon. Le Red Camurocho Land Holdings est en train de s'effondrer. Moins 12% en 2 heures. Quelqu'un sait quelque chose que nous, on ne sait pas. Tercipérix, assis à califourchon sur un bidon d'huile, sussotait une sucette en forme de sein, cadeau d'un autre club douteux, tout en lisant un digeste de Kant imprimé sur papier toilette. T'as pas lu la rumeur sur X, anciennement Twitter, bande de cons ? Il paraît que le bail 77 a disparu. Mystère J tourna lentement la tête. Sa main tomba dans son sac banane, où dormait un tournevis télescopique. Le « bail 77 » Oui mon cousin. Le bail du terrain entre la ruelle des Cocuchots et le club Euphonie. Un terrain vague, jamais construit. Tout le monde s'en foutait. Sauf que maintenant, il est devenu l'épicentre de transactions immobilières anonymes. Des milliards de yens. Et d'après les rumeurs, il y avait un bail en béton, notarié, impossible à contester. Mais là, disparu. Comme un paix dans un encens. J'y tira une latte. L'odeur de tabac et de bitume lui chatouillait l'âme. Et donc le bail 77. Il garantissait quoi ? Que ce terrain ne serait jamais vendu. Une clause éthique, ajoutée en 1987 par un vieux syndicaliste amoureux des pigeons. Tu sais, les petits trucs japonais, genre promesse morale éternelle, gravée dans un document qu'un notaire garde dans un tiroir sous clé. Mais là, il a sauté. Un silence. Lourd. Danse. D'un genre qui s'entend dans les veines. Puis une voix derrière eux, rauque, fatiguée, chargée de gravité bureaucratique. C'est plus qu'un bail. C'est une bombe. Ils se retournèrent. Un homme se tenait dans l'ombre du camion. Mains gantées. Lunettes noires. Cravate sur un maillot de foot de l'Urawarez. Il tenait un porte-document dont on sentait, sans l'ouvrir, qu'il contenait à la fois la vérité, le mensonge, et des procès-verbaux tamponnés à 3h du matin. Je m'appelle Yoko Miso. J'étais clerc chez Tachibana Real Estate. Le bail 77. C'est pas un bail. C'est un leurre. Et maintenant qu'il a disparu, Kamurocho est en train de trembler. Les consortiums étrangers sont prêts à racheter le quartier centimètre par centimètre. Et ce terrain cache quelque chose. Un coffre scellé sous le béton. Une info. Un souvenir. Je sais pas. Mais je suis certain d'une chose, quelqu'un l'a fait disparaître. Et ce quelqu'un est déjà mort. J'y fronça les sourcils. Yoko Miso soupira. Parce que je sais que vous êtes les seuls assez cons, assez bizarres, et assez libres pour foutre le bordel dans une vérité bien rangée. Tercy Périx se leva, les bras croisés, l'air inspiré. Mon intestin vient de se détendre. Je sens que ça va chier grave. Et quelque part, loin dans les couloirs d'une tour de béton au vitrage fumé, une silhouette observait la scène sur des écrans de surveillance. Un homme au costume blanc, assis sur un trône de siège de bureau empilé. Il ricana. Le bail 77. J'avais parié qu'il s'en mêlerait. Chapitre 4 : Le combat des clés USB. Ou, de l'étrange balai entre la mémoire, le silicone, et la violence très gratuite. Un homme tombe sur un pare-brise. Ce n'est pas une métaphore. C'est ce qui arrive littéralement quand on dérange les flux financiers à Kamurocho, on finit en chute libre sur la Toyota Chrome d'un courtier en assurance, avec un cri bref et un os qui claque. À la minute exacte où cet homme toucha le capot, Mister J sirotait un jus d'orge glacé au comptoir du bar Le Vol du Mouette, pendant que Tercy Périx chantait une parodie scatologique de l'hymne de l'Union Européenne. Mon cousin, souffla Mister J, en posant son verre avec douceur, ça fait trois types en costard qu'on croise en moins de 48 heures. Tous avec des tatouages de disques durs sur le torse. Tu trouves pas que c'est connecté ? Tercy Périx, toujours vêtu de son manteau pyjama en satin qui laissait deviner un t-shirt Nietzsche was right about your mom, leva les yeux au ciel. Ça pue le gros complot. Mais genre le vrai, pas le truc de forum. Là on est sur du deep state immobilier avec data leakage à la clé USB. Et justement. Yoko Miso, revenu des limbes d'une salle de pachinko désaffectée, leur tendit deux petits objets, deux clés USB, noires, sobres, marquées d'un symbole presque imperceptible, un pigeon dans un cercle. Elles contiennent deux versions différentes du bail 77. L'une est vraie. L'autre est un leurre encrypté. Mais voilà le problème, messieurs. Il s'arrêta. Tercy Périx grimaça. Quoi ? Tu vas nous dire qu'il faut aller dans un cybercafé glauque pour les décrypter ? Non, répondit Yoko Miso, il faut les insérer, simultanément, dans les deux ports d'un serveur souterrain, gardé par une société secrète de consultants freelance qui travaille pour plusieurs lobbies de la plomberie industrielle. Mister J écrasa son mégot d'un geste sec. Mon cousin. C'est officiel. On est dans la merde en câble HDMI. Le serveur. Bunker numéro 12, sous Kamuro Techno Plaza. Ils descendirent dans les entrailles du centre technologique, via un ascenseur caché derrière une machine à gâchapon. Là, sous des mètres de béton, brillait une salle blanche. Trois consultants en chemise pastel et lunettes à monture fine les attendaient, assis sur des ballons ergonomiques. « Bienvenue au conseil des fichiers disputés », déclara l'un d'eux, en se massant les tempes. « Les règles sont simples, un seul port fonctionnera. Mais pour choisir, vous devez combattre. » J'y fronça les sourcils. « Combattre ?» Un clic. Le sol se mit à trembler. Des trappes s'ouvrirent. Des hommes en costume surgirent, chacun tenant une clé USB géante comme une épée. Gravés dessus, des dates, des clauses juridiques, des noms effacés. Bienvenue au tournoi. Celui qui gagne a le droit d'être inséré. Tercy Périx leva les yeux au ciel, puis, hilar. C'est donc ça, la justice foncière au Japon ? Mister J se battait comme un ouvrier du BTP récitant du Victor Hugo. Il balançait des coups de sac banane enrichis au plomb, tout en criant. Réglementation urbaine, mon cousin. Tercy Périx vit revolter comme une comète éructant du Rimbaud. Il déclama à plein poumon. Tu es l'USB de l'oubli. Je suis le virus du vrai bail. Et ton corps, c'est la DLL corrompue. D'un monde qui s'auto-suce avec Excel. Les consultants, hypnotisés, notaient tout. Un d'eux pleurait doucement. Finalement, dans un ralenti tragique et absurde, Mister J planta la clé dans le port droit, pendant que Tercipérix, suspendu à une poutre, beuglait un slam à propos des toilettes publiques et de la liberté individuelle. Un bip sonore. Puis, le silence. Puis, sur l'écran central. Bail 77 décrypté. Origine, Tachibana. Clause cachée, article 14, projet Colombe Rouge. Coordonnées GPS activées. Transfert vers, club Euphonie, étage moins 3. Jiblemi. Mon cousin, y a jamais eu d'étage moins 3. Tercipérix, haletant, se gratta l'aisselle gauche. Et c'est sûrement là que le vrai propriétaire dort. Ou que la mémoire de Camus Rochaud est gardée. Ou un chiotte magique. Peut-être les trois. J'en sais rien. Mais je veux savoir. Chapitre 6, la plaidoirie du sac banal. Ou, du moment où la ville de Camus Rochaud fut suspendue à la fermeture d'une fermeture éclair. Les néons pleuraient leur lumière rose sur les trottoirs de Camus Rochaud, et pourtant la ville retenait son souffle. Quelque part sous la façade déchue du club Euphonie, au niveau moins 3, un étage supposément inexistant selon tous les plans cadastraux depuis 1989, deux hommes avançaient. Mister J ouvrait la marche, le visage tendu comme un câble RJ45 qu'on aurait trop plié. À sa hanche, son sac banane, zippé avec une précision chirurgicale, semblait rayonner d'une autorité inédite. Tercipérix suivait, torse nu sous un trench coat de cuir transparent, mâchant une olive avec une lenteur volontairement agressive. Le couloir sentait l'archive, l'encre et le sang tiède. « Mon cousin, » dis-je sans se retourner, « tu sais que ce sac, je l'ai depuis le permis poids lourd. Il a tout vu. Il a porté des boulons, du pain, une bouteille de pommerol, trois dossiers secrets, un calendrier de poutre IPE et un bon pour un massage fiscal. Il est temps qu'il parle. » Au bout du couloir, la salle du tribunal clandestin les attendait. Le tribunal du bail 77. Un lieu interdit, protégé par le syndicat des pigeons libres, dernière confrérie notariale de Camus Rochaud. Là, sous des lustres faits de factures impayées, les deux amis se tinrent debout devant un jury composé d'eux. Un ancien chef yakuza reconverti en juge fiscaliste. Une grand-mère aveugle qui prétendait lire les signatures au bruit du stylo. Et un robot notarial équipé d'une imprimante thermique. Accusé, commença le juge en frappant avec un tampon humide, on vous soupçonne d'avoir décrypté illégalement le bail 77, d'avoir initié le protocole Colombe Rouge, et d'avoir tabassé 12 consultants en droit minier avec un outil de chantier multifonction. J s'avança. Il déboutonna lentement son sac banane. L'audience retint son souffle. Ce sac est une déclaration d'intention, une preuve, un manifeste logistique. Ce sac contient la mémoire d'un homme, d'un quartier, d'une époque. Ce sac est mon attestation d'être vivant, mon cousin. Il sortit un à un les objets. Une clé USB contenant l'enregistrement audio d'un rendez-vous secret entre le directeur de la préfecture foncière et un pigeon, oui. Une serviette tachée d'encre avec la vraie clause éthique du bail 77. Un boulon. Pour l'esthétique. Ce sac n'est pas un sac. C'est un témoignage. Et dans une ville où la parole est une arme, moi, je parle avec du textile zippé et de la vérité pondérée. Si on doit tomber, alors que ce soit en ayant plaidé notre cause, comme des hommes. Tercipérix bondit. Objection. Votre honneur. Vous n'êtes pas avocat. Je m'auto-représente. En tant qu'incarnation vivante de l'ambiguïté fiscale et du besoin universel de faire caca dans des lieux dignes. Il sortit une planche PowerPoint imprimée sur du papier toilette rose, la jeta en l'air comme des confettis de colère. Il déclama. Si ce bail est une promesse, alors sa disparition est une trahison. Et dans ce sac banane, il y a le dernier soupir d'un Camus Rochaud humain. Un Camus Rochaud où les pigeons pouvaient chier sans permis. Et où un homme pouvait investir sans vendre son âme à des immeubles sans fenêtres. Silence. Le robot notarial imprima lentement une ligne de texte. C'est recevable. Le juge soupira. Messieurs. Nous ne vous acquittons pas. Nous vous confions une mission. La mission de retrouver le pigeon rouge, seul détenteur vivant de la dernière clause non numérisée du bail. Il vit peut-être encore, quelque part, dans l'ancien centre de tri postal, transformé en complexe d'escape games illégaux. J'y referma son sac. Tercipérix s'essuya les aisselles avec panache. Ils sortirent. Et dans leur sillage, Camurocho comprit qu'un souffle ancien avait repris forme, celui d'une justice parallèle, portée par deux imbéciles pleins de style. Camurocho n'était plus qu'un souvenir dans leur semelle poussiéreuse. Un souvenir suintant de sueur et de promesses non tenues, comme les promesses d'un maire élu sur la régulation du streaming musical. Le soleil d'Okinawa leur tombait dessus comme un coup de poing lent. Ils venaient d'atterrir à Naha. Là où les mafias ont troqué leurs katanas contre des cocktails, où chaque ruelle est un dilemme moral entre poissons grillés et prostitution déguisée en karaoké culturel. Et pourtant, un espoir. Le pigeon rouge est ici, souffla Mister J en réajustant son sac banane déjà moite. Un ancien agent notarial en cavale. Il aurait fui après avoir tenté de dénoncer le rachat fictif du port de Tomari par un syndicat d'architectes offshore. Mon cousin, cette ville est un calque exotique de l'enfer administratif. Tercipérix, lunettes de soleil relevées, mâchonnait une brochette de poulpe en marmonnant des insultes inventées. Il joue aux mafieux avec des chemises à fleurs. Mais ça reste des capitalistes en sueur. Je les ai déjà. Et c'est à ce moment précis qu'un scooter électrique manqua de les percuter. Il s'arrêta dans un nuage de parfums Hugo Boss et de mauvaise foi. Désolé, j'étais en call avec Hong Kong. Un homme descendit du deux roues avec l'élégance d'un fichier Excel mal sauvegardé. Costard slim, cravate fine, chaussures de ville brillantes comme des menottes fiscales. Il portait trois sacs contenant des commandes Uber Eats, un drone de loisirs et une raquette de padel. Tiens, J. Ça fait plaisir. Nonoc, dit Mister J, sincère et surpris. T'es à Okinawa, mon cousin? Ouais, j'ai une mission ponctuelle pour la filiale d'optimisation algorithmique de la banque. Je dois fluidifier les créances inactives dans le secteur des loisirs insulaires. Et je me suis inscrit à un atelier de céramique sensorielle aussi. Tercipérix fit claquer sa langue. Longuement. Tupule inauthentique, Nonoc. Même ton bronzage est en point JPEG. T'as payé combien pour l'air que tu respires? Nonoc rit. Toujours aussi extrême, Tercipérix. T'as pensé à faire une thérapie? Oui. Et je l'ai insulté pendant 2 ans. Le lendemain matin, les trois hommes arpentent les couloirs poisseux du grand marché. Ici, les dorades te fixent comme des policiers en civil. Les pieuvres gigotent encore dans les bacs, à mi-chemin entre résistance et mise en scène. Des yakuza locaux, torses nus sous des chemises ouvertes, fument des cigarillos aux poissons séchés, tout en pariant sur des combats de Bernard l'ermite. C'est ici que le pigeon rouge opérait, murmura J. Il livrait des documents secrets dans des poissons creux, à travers une chaîne logistique entre les étals de thon et les faux temples bouddhistes pour touristes russes. « Je suis pas sûr que ce soit halal », répondit Nonoc, en commandant une boisson détox sur son téléphone. Tercipérix ne disait rien. Il fixait une fresque murale représentant une grue stylisée, qui semblait pleurer. Et c'est là qu'il comprit. « Mon Dieu ! Cette fresque ! C'est un plan ! Hein ? Regardez bien ! Les ailes, c'est la carte du port. Le bec pointe vers un bâtiment désaffecté. Et l'alarme? C'est une chambre froide secrète. Ce foutu pigeon rouge a caché le bail non signé dans une sardine surgelée géante astérisque. Ils partirent en courant. Nonoc suivit en trottinette, après avoir annulé un rendez-vous Tinder qu'il n'avait pas l'intention d'honorer. Ils pénétrèrent dans l'ancienne chambre frigorifique, envahie de mousse et de cartons de glace carbonique. Au centre, un hôtel de polystyrène. Et dessus, une sardine géante sculptée dans la glace. À l'intérieur, visible comme une relique païenne, un rouleau en peau de poisson, tatoué d'un sceau notarial ancien. Mais trop tard. Des hommes en chemise à fleurs et gants blancs entrèrent. Armés de machettes chromées. Le chef, un homme chauve à la moustache peignée au laitoisa. Ce document est la propriété du clan Takanami. Il prouve que le port de Tomari n'a jamais été vendu. Ce qui signifie que nous avons été manipulés. Et que quelqu'un au sommet du gouvernement veut effacer la vérité. Et vous allez le brûler? Demanda J. Non. On va le vendre comme NFT à un fonds souverain qatarien. Tercipérix bondit. Pas avant que j'aille larguer ma violence. Le combat fut bref, sale et tropical. Mister J utilisa une caisse de thon comme massue. Mystère Cyperix lança des insultes si puissantes qu'un homme s'évanouit. Nonox se planqua derrière une caisse de wasabi et transmit l'événement en live à ses abonnés premium. Ils s'enfuirent avec le rouleau. Le pigeon rouge n'était pas là. Mais une plume rouge, prise dans la serrure frigorifique, indiquait qu'il avait déjà fui. Vers le nord. Vers Tokyo. Nonox les quitta le lendemain, prétextant une montée de stress métabolique. Tercipérix ne lui adressa pas un mot de plus. Mister J, lui serra la main. Une poignée honnête. D'homme à parasite. T'as pas été utile, mon cousin. Mais t'as été là. C'est déjà mieux que beaucoup. Chapitre 8. La sardine de feu, révélation notariale et bains publics interdits. Ou, du secret logé entre deux reins et trois silences mouillés. Kamurocho, encore. Mais une Kamurocho qui se présentait comme un théâtre trop bien éclairé. Les néons ne brillaient plus, ils disséquaient. Tout était devenu trop net, trop propre. La façade de la décadence, ripollinée en wellness marketing. Tercipérix soupira en écrasant sa clope contre un distributeur de boissons estampillées au matcha éthique. On est revenu dans le ventre mou du vice repeint en centre bien-être. Cette ville me donne envie de pisser sur des QR codes. Mystère J'irai ajusta calmement son sac banane. Il suait déjà. Le document du port, mon cousin, il est crypté. Crypté dans un tatouage invisible. Et ce tatouage, il serait sur une femme. Une employée de l'ancien salon de massage Nadesico, transformée en centre de récupération ayurvédique à connotation variable. Tu vois l'idée? Ouais, fit Tercipérix. Une meuf payée en liquide pour te masser la fiscalité avec les seins et te réciter l'article L241 du Code des ports pendant qu'elle te frotte les chakras avec du gingembre coréen. Ils descendirent vers Tankeshi Ali, où le nouveau Yum Wellness Spa se cachait derrière des rideaux de soie recyclés et une musique d'ambiance où se mêlaient vagues et clochettes fiscales. Entre hygiène douteuse et secret d'état. Ils furent reçus par une hôtesse d'apparence irréprochable. Silhouette gracieuse, regard doux, blouse blanche nouée juste un peu trop haut pour être réglementaire. Messieurs, notre rituel éveil sardinique est un soin ayurvédique à quatre mains. Il cible la zone lombaire pour libérer les tensions et parfois les vérités notariales accumulées. J'y hocha la tête. Tercipérix fronça les sourcils. Je veux pas qu'on me tripote le destin avec des gants parfumés à la corruption. C'est dans cette zone-là qu'est caché le tatouage invisible, mon cousin. Tu veux le pigeon rouge ou pas? Silence. Puis Tercipérix gronda. Mais si quelqu'un me touche les reins avec de la vaseline au CBD, je balance des coups de genoux dans des chakras, je préviens. Ils furent installés dans deux cabines séparées, à demi nus, enveloppés dans des serviettes trop fines pour contenir le moindre soupçon de pudeur. C'est alors que tout se brouilla. La lumière vira au rose fuchsia. De petits drones porteurs d'huiles essentielles descendirent du plafond. Une musique se déclencha, un remix lent et sultri de l'hymne national japonais joué au chamisan électrique. Les deux masseuses, jumelles et visiblement ex-agents du fisc, entamèrent la procédure. Respirez lentement. Nous allons scanner les flux mémoriels épigénétiques situés sur vos reins. Mes reins sont syndiqués, murmura Tercipérix. Soudain, sous l'effet de la chaleur et de l'huile de sésame notariale, une forme apparut. Un dessin. Une sardine. Mais pas une sardine ordinaire. Une sardine de feu, tatouée en encre thermique, visible uniquement sous une température corporelle précise, 39,2 degrés Celsius, et uniquement lorsqu'un certain mélange d'acides aminés était absorbé par voie cutanée. Les jumelles s'agenouillèrent devant J. Une d'elles murmura. C'est sur votre flanc droit. Le code. Les coordonnées exactes du coffre du clan Tachibana. Et ce n'est pas tout. La sardine, c'est une clé. Elle ouvre un compte en Suisse au nom de l'État du Japon. Un compte qui n'existe que pour financer les reconstructions post-catastrophe, mais dont les fonds sont détournés depuis 10 ans. Le pigeon rouge le savait. C'est lui qui a tatoué cette sardine sur vous, il y a 20 ans. Lors d'une nuit de saké et de vérité dans un club de Shibuya. Vous étiez inconscient. J'y blémis. Mon cousin. J'ai un secret d'état entre les lombaires. Tercipérix hurla de l'autre cabine. Je vous avais dit que ces massages c'était louche. J'ai un drone qui me lèche les chevilles pendant qu'on me lit des haïkus en mandarin. Mais le moment d'exhibition suspendu fut interrompu. Des hommes armés firent irruption, camouflés sous des serviettes de bain. Le clan des eaux vives, un groupuscule de Yakuza reconverti dans la gestion de spa corrompu, venait récupérer la sardine de feu. La baston fut immédiate. J se leva, la serviette à moitié tombée, frappant avec une bouteille d'huile tiède comme s'il maniait un sabre. Tercipérix, nu comme une vérité brute, bondit hors de sa cabine, criant. Mes fesses sont des armes de classe politique. Il asséna un coup de bassin dévastateur à un sbire, tout en hurlant un poème insultant en vers libre. La bataille dura 8 minutes. À la fin, seuls les deux amis restaient debout. Et une des masseuses leur tendit une clé USB. Cette sardine tatouée, elle vous mènera à Tokyo. Là-bas, dans les bains publics privés du quartier de Kagurazaka, un vieil homme vous attend. Il connaît le mot de passe. Il fut autrefois le pigeon rouge.